Dans ce chapitre, nous allons aborder Link ou LingQ, comme le disent les anglophones. Le Language Integrated Query est arrivé avec la version 3.5 du framework .NET avec la ferme intention d'uniformiser tous les traitements et accès aux ensembles de données, quelle que soit leur forme ou leur provenance.
Pour nous en rendre compte, je vous propose de créer un nouveau projet. Appelez-le Premier pas avec LingQ.
Dans le champ nom du nouveau projet.
Vous pouvez nommer la solution Premier pas avec LingQ, solution.
Dans le champ nom de solution, clique sur OK.
Après avoir créé votre projet d'application console, nous allons commencer par créer un ensemble de données, ici un tableau d'entiers. Je crée donc un tableau d'entiers dans lequel j'ai spécifié 5 valeurs et je le stocke dans ma variable tab. Vous pourriez avoir envie d'afficher tous les éléments de ce tableau. Nous pourrions le faire à l'aide d'une boucle for.
Une console intitulée Premier pas avec LingQ s'ouvre.
Ainsi, quand je lance mon programme, je vois tous les éléments affichés sur ma console.
Clôture de la fenêtre.
Admettons maintenant que je cherche à n'afficher que les éléments pairs de ce tableau, vous seriez sûrement amené à réaliser une condition telle que celle-là.
Le professeur écrit if, puis entre parenthèses espace petit i, espace module O2, espace 2 fois égal, espace 0.
Ainsi, si i module 2 vaut 0, ça signifie que c'est un nombre pair, et donc j'affiche ce dernier. Pour itérer sur les éléments de mon tableau, je peux certes utiliser, comme vu au premier chapitre, une boucle for avec un index, mais je peux également utiliser le mot-clé forEach, me permettant de récupérer les éléments les uns à la suite des autres à l'intérieur d'un ensemble de données. L'intérêt d'utiliser un for each est qu'il me permet de récupérer les uns à la suite des autres les éléments d'un ensemble sans que ces derniers soient forcément indexés ou numérotés. Ainsi, quel que soit le type de mon ensemble de données, un tableau, une liste, une pile, une queue, ma manière de récupérer chacun de ces éléments sera toujours la même et je n'aurai pas à adopter de stratégies différentes. Allons plus loin. Grâce à LingQ, vous pouvez écrire le filtre suivant pour récupérer tous vos éléments pairs de votre tableau. From, élément in, mon ensemble de données.
Tab.
Respectant la condition que mon élément module 2 vaut 0, sélectionnez cet élément. Vous le remarquez ici, ceci est très proche d'une syntaxe SQL, le langage que nous utilisons pour faire des requêtes vis-à-vis des système de gestion de base de données. Pour ceux qui n'aiment pas la syntaxe SQL, vous pouvez y adopter une syntaxe fonctionnelle. Les deux formes sont équivalentes. Vous remarquez ici que dans la syntaxe fonctionnelle, j'ai utilisé une expression lambda, comme nous l'avons vu dans la précédente partie. Lorsque j'exécute mon programme, nous nous rendons compte que les deux collections obtenues sont bien identiques. Attention cependant, n'allez pas croire que la variable pairs représente un tableau de tout les éléments de mon tableau qui étaient des nombres pairs. En effet, lors de l'exécution de cette instruction ou de cette instruction, aucun test sur les éléments de mon tableau n'a été fait. N'ont été stockés dans mes variables pairs et pairs2 que la manière de récupérer les éléments pairs de mon tableau. Ils n'ont pas été récupérés pour de vrai. À partir de maintenant, je vais privilégier la syntaxe fonctionnelle à la syntaxe SQL. En effet, la syntaxe fonctionnelle a le bon goût de masquer moins de choses que la syntaxe SQL. Cela nous permettra donc plus facilement d'appréhender les mécanismes qui se déroulent derrière LingQ. Supprimons donc les parties de mon code relevant de la syntaxe SQL et gardons uniquement la syntaxe fonctionnelle.
Il supprime pair 2.
Comme je vous l'ai dit, aucun test sur les éléments de mon tableau n'est effectué avant de rentrer dans le forEach. Pour vous en convaincre, rajoutons une instruction à l'intérieur de ma méthode lambda.
Return espace ELT, espace module A2, espace 2 fois égal, espace 0.
Je suis donc obligé de rajouter des accolades. Affichons à chaque test d'élément un message dans notre console. De la même manière, affichons un message avant de commencer à énumérer et afficher notre collection.
Il écrit console.writeline, ouvrez la parenthèse, le sigle $, ouvrez les guillemets, je teste l'élément, espace de point, espace ELT entre accolades, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point virgule.
Et exécutons notre programme.
La console s'ouvre.
Comme vous vous en rendez compte, aucun message de test d'éléments n'est affiché avant le message avant de rentrer dans le for each. Ainsi, la variable pairs ne contient que la manière d'énumérer et de filtrer les éléments de mon tableau, et ce filtrage ne sera effectué que lorsque je commencerai à énumérer ces éléments-là. Pour bien s'imprégner du fonctionnement de LinkU, je vous propose de recréer notre propre foreach. Pour bien comprendre comment fonctionne le foreach, je me suis permis de vous réécrire une méthode statique implémentant cette fonctionnalité. Il s'agit donc d'une méthode qui va prendre en paramètre une collection d'un certain type et une méthode à appliquer sur chacun des éléments de cette collection. J'ai défini donc un type délégué de méthode que j'ai nommé forEachDelegate. Ainsi, que fait mon forEach ? Il récupère l'itérateur des éléments de cette collection, donc le même itérateur que vous pourriez avoir dans d'autres langages type le C++ ou encore le Java. Et ensuite, tout pendant que mon itérateur .moveNext ne me renvoie pas false, autrement dit tout pendant qu'il reste des éléments à énumérer, j'applique la méthode body à l'élément courant. J'ai fait exprès de nommer la méthode body, car en fait c'est le code qui sera exécuté à l'intérieur d'une boucle forEach que nous allons stipuler ici. Ainsi, dans ma méthode main, l'utilisation du mot-clé forEach du C# ou de ma méthode statique forEach a une syntaxe un petit peu différente, mais les résultats seront identiques. En effet, j'ai bien mon premier forEach qui m'affiche 4, 2, 6 et 42, et mon deuxième forEach qui m'affiche également 4, 2, 6 et 42.
Dans la console.
Revenons maintenant sur cette affaire d'évaluation différée. Pour mieux pouvoir appréhender ce phénomène, je vous propose ici une méthode me renvoyant une collection d'entiers. C'est une méthode statique nommée multiple de 3, ne prenant rien en paramètre et renvoyant un enumerable chevron int. Son corps est var num égale 0, point virgule, while entre parenthèses true, et entre accolades, yield return num, point virgule, num plus égale 3, point virgule. Cette méthode me permet de générer jusqu'à l'infini l'ensemble de tous les multiples de 3 en partant de 0. Ainsi, entre deux exécutions du mot-clé yieldReturn, j'incrémente mon nombre de 3. Sachant que le code situé entre deux exécutions de yieldReturn est celui qui sera exécuté à chaque appel de la méthode moveNext de l'itérateur de ma collection, je me retrouve donc à chaque appel de moveNext avec la valeur it.current de mon itérateur retournée par le dernier appel à yieldReturn. Ainsi, si je souhaitais récupérer les 15 premiers éléments pairs et multiples de 3 existants à partir de 0, il me suffirait d'écrire pour chacun des 15 premiers éléments pairs de mes multiples de 3, affiche cet élément. Ce qui peut tout simplement s'écrire forEach, entre parenthèses, var elt in, multiple de 3, parenthèse, parenthèse, point where, entre parenthèses, elt, flèche, elt, modulo 2, égal, égal 0, point take, entre parenthèses, 15. À l'intérieur du forEach, nous nous contentons d'écrire console.writeline, entre parenthèses, elt, point virgule. Et lorsque j'exécute mon programme, j'ai donc 0, 6, 12, 18, 24, 30, etc., soit les 15 premiers éléments pairs des multiples de 3. Comme vous vous en rendez compte ici, nous n'avons jamais alloué une seule liste ou tableau ou structure de données particulière pour stocker ces 15 premiers éléments. Nous n'avons fait que spécifier la manière de récupérer chacun de ces éléments, et ces derniers sont construits au fur et à mesure que l'on cherche à les afficher. L'avantage de ce genre de programmation est que cela nous permet très simplement de manipuler des collections potentiellement infinies sans jamais avoir à payer le prix d'une allocation complète d'une telle collection. Je vous invite à me retrouver dans le prochain chapitre pour utiliser Link avec une vraie base de données.
Un ovoïde bleu ciel vient se superposer à un premier bleu foncé dans lequel s'inscrivent en lettres blanches le groupe S2I. En petit carré de mosaïque brun, rouge, orange et or, le logo OC s'affiche à l'écran pour annoncer Open Classrooms.